Donc je vais effectivement vous parler ce soir d'un thème qui est un peu dans le prolongement de l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière sur la valeur de la vie, où je m'étais, entre autres choses, intéressée au contexte thérapeutique du diagnostic prénatal, et en particulier au moment où le désir d'enfant est confronté à une annonce de handicap ou d'anomalie ou de pathologie certaine ou potentielle. Et donc effectivement, intéressée par cette situation, après ce travail sur la valeur de la vie, j'avais décidé de prolonger et de proposer une enquête sur l'idée de désir d'enfant, voilà, en l'abordant en fait de la manière suivante. D'une part, en travaillant en particulier quelque chose qui m'est apparu très frappant dans les observations que j'ai pu faire de la vie hospitalière, c'est-à-dire la place du discours psychologique ou psychanalytique présent auprès des discours médicaux, puisque aujourd'hui, dans la plupart des champs médicaux de la procréation, les médecins sont accompagnés de psychologues, et cette présence de la psychologie à l'hôpital, elle est aussi marquée tout simplement dans le débat public, où on voit une forte présence de ce discours psychologique ou psychanalytique. Donc d'une part, j'avais ceci à cœur. D'autre part, j'avais aussi à cœur de mettre en évidence que le désir d'enfant pouvait être considéré comme un nœud en fait de l'intime et du politique, c'est-à-dire de quelque chose que je vais revenir sur cette idée, mais qui a été considéré comme relevant de la sphère privée de l'individu et qui en même temps et simultanément est saisi par la cité, hein, la cité, l'entité politique, et pris comme un objet de la législation et du débat public. Voilà. Et puis, surtout, peut-être, et le dernier motif d'incitation à cette enquête est que plus le temps passait, plus je m'intéressais au désir d'enfant et plus je trouvais que c'était mystérieux. Et donc, je voulais essayer un petit peu de travailler le sens de ce désir. Voilà. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est surtout un exposé qui a pour objet d'ouvrir la discussion, parce que ce qui est très frappant dans les débats contemporains sur la procréation, et on le voit encore aujourd'hui à l'heure actuelle avec la révision sur la loi bioéthique, c'est le caractère extrêmement passionnel des débats, des prises de position qui sont parfois extrêmement dogmatiques et qui s'affrontent assez violemment. Donc c'est vrai que en tant que philosophe, je cherche à me mettre un petit peu de côté et à redéplier les choses, à réexposer les arguments de façon à introduire un peu plus de jeu dans la discussion et peut-être donc à tenter, en tout cas, c'est de favoriser la discussion publique et le développement d'arguments. Voilà, c'était un petit peu mes intentions en commençant ce travail. Alors, je suis partie du constat qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, en France et dans un certain nombre d'autres pays, on se plaît à aborder la venue au monde et la vie d'un enfant comme relevant d'un désir. Désir d'une femme, d'un homme ou d'un couple. Et ce constat est déjà source de surprise, puisque nul ne peut ignorer que si cette soi-disant évidence du désir d'enfant et de ce qu'il produit recèle une quelconque vérité, cette évidence ne s'applique qu'à un tout petit nombre de femmes et d'hommes à l'échelle du monde. Et en particulier, concevoir des enfants quand on le désire, seulement à ce moment-là, et avec une relative certitude de succès, demeure l'apanage d'une minorité. Alors, il est vrai que cette minorité a bénéficié de la mise au point et de la diffusion de moyens de contraception, garantissant un meilleur contrôle de la fécondité que par le passé, et notamment par les femmes. Et il est vrai aussi que, dans certains États, cette équation, hein, je désire un enfant, j'ai un enfant, s'est aussi appuyée sur la possibilité d'avorter sans raison médicale particulière jusqu'à un certain stade de la grossesse. Et de ce fait, femmes et hommes ont pu éprouver et éprouvent aujourd'hui le sentiment qu'ils exercent une forme de contrôle, hein, sur les effets de l'acte sexuel. Celui-ci n'est plus nécessairement, je dirais entre guillemets, fécondant. Ils peuvent affirmer le choix de ne pas avoir d'enfant du tout, ou en tout cas de ne pas en avoir à tel ou tel moment de l'existence, Voilà. Alors, de ce fait, on met de côté tous les facteurs dont demeure effectivement tributaire la mise au monde d'un enfant, hein, les hasards de la fécondation qui restent toujours importants, le bon déroulement de la grossesse, le bon déroulement de l'accouchement, l'état de santé de l'enfant, tout ça est un peu mis entre parenthèses dans les discours publics et individuels. Ce qu'il est peut-être aussi important de considérer d'emblée, c'est que cet énoncé du désir d'enfant est un discours qui est historiquement daté. Il a émergé en plusieurs temps. Alors évidemment, on pourrait remonter à des textes très anciens. Je pense notamment au texte de Montaigne qui dit qu'il ne veut pas d'enfant. Mais pour s'en tenir à l'histoire plus récente, il est important de voir que dans la société française, ce discours a émergé en plusieurs étapes, je dirais. La contraception et la possibilité d'avorter ont contribué à partir des années 70, vous le savez, à libérer la parole des femmes et des hommes qui luttaient pour que, je cite, la venue de l'enfant soit un choix. Et la parole des couples qui ne parviennent pas à procréer s'est fait entendre une dizaine d'années plus tard avec l'expansion de la FIVET, donc à partir du début des années 80. C'est quelque chose que la sociologue Dominique Mel a bien étudié dans son ouvrage qui s'appelle « Naître, la controverse bioéthique », qui était centrée sur le cas de la société française, où elle a souligné que la FIVET a contribué, enfin, où a été l'émergence et l'usage de cette technique a été contemporain d'une mise en public de souffrances qui restaient jusque-là secrètes, vécues dans l'intimité des foyers, hein, ou le huis clos des consultations gynécologiques et qui étaient associées à l'expérience de l'infertilité. On ne racontait pas guère la stérilité auparavant, et à partir de ce moment-là, du début des années 80, on s'est mis à la raconter. Et en tant que tel, c'est un fait social, un événement social important qu'il convient de relever. Alors, ce que note aussi Dominique Mel, cette sociologue, c'est que la pratique de l'insémination artificielle avec donneur aurait aussi pu donner lieu à l'énoncé du désir d'enfant, à ces récits, que ça n'a pas été le cas et que c'est quelque chose dont il faudrait éclairer les raisons. En tout cas, quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, le désir se dit, il se proclame et il s'impose comme une réalité indiscutable dans le débat public. Et on s'inscrit, en fait, dans cette vision des choses, dans un temps du désir qui succéderait à un temps où il était, c'est souvent les qualificatifs qui sont employés, naturel ou du moins inévitable de faire des enfants. Dans cette autre foi, hein, qui s'est un peu constituée par, en effet miroir, hein, le désir avait peu de place face aux forces de la nature, féconde ou stérile, et dans ce motif de la naturalité, il était naturel de faire des enfants, s'entrecroisaient plusieurs idées. C'est comme ça qu'on perçoit cette espèce de passé où on n'avait aucune prise sur la procréation. Il était en particulier naturel à la femme de devenir mère, la maternité était perçue comme l'accomplissement de la vie d'une femme, il était naturel pour le couple hétérosexuel d'enfanter et de fonder une famille, et il était naturel pour l'espèce de se perpétuer. Et si tout le monde ne s'accordait pas sur ces jugements de naturalité, en tout cas, l'acte procréatif était perçu comme incontournable et difficilement évitable, à moins donc de faire vœu de chasteté. Alors, cette représentation de la succession des temps, un temps où il était naturel de procréer, en tout cas inévitable, et un temps du désir, elle doit être d'emblée complexifiée. Elle est assez caricaturale, même si elle est assez prégnante dans l'air du temps. D'abord parce que autrefois, l'acte procréatif, quand il avait lieu, il ne s'ensuivait pas toujours de l'avènement d'une famille. C'est pas parce qu'on avait des enfants avec quelqu'un qu'on fondait nécessairement une famille. Beaucoup d'enfants ont été effectivement ont grandi à l'écart des formes de vie familiale qu'on connaît aujourd'hui. L'historien Yvan Jablonka a récemment souligné combien l'abandon d'enfants était monnaie courante et il s'est particulièrement intéressé à ce phénomène de l'abandon d'enfants pour une période restreinte de l'histoire de France sur lesquelles on dispose d'archives, ce qui évidemment permet l'enquête de l'historien, mais il s'est intéressé dans un ouvrage qui s'intitule « Ni père ni mère, histoire des enfants de l'assistance publique » à la période comprise entre 1874 et 1939 en France, c'est-à-dire une période où la société française a organisé la gestion, si je puis employer ce terme, des enfants abandonnés et leur prise en charge au nom de la solidarité par la société. Et les archives montrent que ces abandons, effectivement, ont été une pratique numérique massive et socialement organisée. Des femmes mettaient au monde des enfants, elles ne pouvaient pas les garder, ou elles ne le souhaitaient pas, et elles abandonnaient l'enfant au coin d'une rue ou à l'entrée d'un hospice. Et en fait, la mise en place de l'assistance publique française, en fait, est un moment évidemment important parce qu'on va mettre en place des structures pour recueillir ces enfants, mais elle correspond aussi à un moment où la société accepte moins bien les conséquences de ces abandons, alors que pendant des siècles, l'abandon d'enfants n'a pas nécessairement toujours suscité des protestations ou des objections éthiques et juridiques. Donc, ce temps où il était naturel de faire des enfants, en particulier pour les femmes, et de fonder des familles, est en fait un temps qui est historiquement beaucoup plus évidemment compliqué que ça. Et par ailleurs, si l'on s'intéresse au temps d'aujourd'hui qu'on qualifie avant tout comme un temps du désir, il faut aussi noter que l'idée de nature n'a pas totalement disparu des discours relatifs à la procréation et qu'elle sert souvent pour tracer des frontières entre un désir d'enfant qu'on juge légitime et un désir d'enfant qu'on juge illégitime. Par exemple, certaines équipes de procréation médicalement assistée se disent perplexes face à l'âge de certaines personnes venues les consulter. Elles estiment parfois que la mère vient les voir trop tard, enfin que la femme, pardon, vient les voir trop tard pour concevoir, porter et accoucher sans risque excessif un enfant. L'âge du père peut aussi être en cause, par exemple, notamment dans le cas de couple où le père est notablement plus âgé, où l'homme, pardon, est notablement plus âgé que la femme. Ces équipes disent qu'elles envisagent plutôt ce monsieur comme un grand-père que comme un père potentiel. Et dans ces cas-là, le désir est perçu comme déplacé, outrepassant l'ordre des choses, que ce soit par ignorance ou esprit de transgression. Il y a cette idée qu'on devrait finalement que le désir d'enfant devrait s'accorder avec quelque chose qui autrefois était assez courant comme idée, mais qu'on emploie moins aujourd'hui, mais qui est celle de l'idée des âges de la vie. Hein. À chaque âge correspond un certain nombre de choses et il convient de les faire au moment où elles sont censées être faites. Voilà, donc il y a cette représentation des choses. Aujourd'hui, on serait dans un temps du désir. Autrefois, on était dans le temps de la nature qui s'imposait à nous. Là, je viens de souligner que de part et d'autre, cette représentation des choses devait vraiment être nuancée et complexifiée. Mais quoi qu'il en soit, c'est une représentation qui est très forte et qui, malgré ses limites, est relativement peu contestée aujourd'hui. En tout cas, ce à quoi elle renvoie, c'est bien cette idée qu'il se dit aujourd'hui des choses qui devaient être dissimulées autrefois ou qui ne se disaient pas ou qu'on n'avait pas l'opportunité de dire, voire de ressentir, hein, « je voudrais un enfant, je veux un enfant ». Ces énoncés-là, en fait, expriment un désir qui n'a pas toujours eu la possibilité d'être éprouvé ni formulé. Et de ce point de vue, on est bien dans une phase assez particulière de l'histoire des sociétés humaines. Ce qui est peut-être aussi important de mettre en évidence dans le contexte qui est le nôtre, c'est que le désir d'enfant, aujourd'hui comme autrefois, il peut exister sans être nommé malgré tout. Même si on est dans une phase de discours et de mise à public du désir d'enfant, ce désir peut continuer à peut exister sans être nommé. Et il peut notamment impulser une dynamique des comportements, des choix de vie, des attitudes, sans que le sujet qui en est animé en soit véritablement conscient. Alors de ce point de vue, la psychanalyse de l'infertilité constitue un outil, à mon sens, assez précieux pour examiner les choses, parce qu'elle met en évidence, dans des cas pathologiques, des phénomènes que l'on peut constater à des degrés de pathologie moins marqués, ou en tout cas sous des formes diverses. Mais enfin, cette psychanalyse de l'infertilité, elle a insisté sur des situations où le désir d'enfant dominait entièrement une personne sans que cette dernière soit même de le formuler, ni même de l'éprouver en tant que telle. Et je voudrais, pour illustrer mon propos, citer un extrait du livre du Ça de Grodeck qui donne un exemple assez parlant de ce cas de figure. Grodek parle d'une femme avec qui il travaille régulièrement donc explique que cette femme a été un enfant maltraité par sa mère qui, après avoir dans un premier temps négligé son bébé, est devenue une mère inquiète, exclusivement dévouée à son enfant. Et en grandissant, cette personne avec qui il a des relations professionnelles est devenue le bourreau de sa mère. Et par ailleurs, elle est dévorée du désir d'enfant, mais s'arrange toujours dans sa vie pour ne pas procréer. Alors je cite ce passage parce qu'il me semble assez parlant de ces désirs qui ne se vivent pas comme tels, ne sont pas formulés comme tels. Sa démarche est celle d'une femme enceinte. Quand elle voit un nourrisson, ses seins gonflent et quand ses amies sont grosses, son ventre enfle. Pendant des années, cette femme que la vie a par ailleurs comblée s'est rendue chaque jour dans une maternité. Y a rempli les fonctions d'aide-garde-malade, nettoyant les enfants, lavant les couches, soignant les parturientes. Et elle a dérobé, avec des gestes de criminel, elle collait à son sein sans lait la bouche des nouveau-nés. Mais elle s'est mariée par deux fois avec des hommes qu'elle savait à l'avance incapables de procréer. Elle vit de haine, d'angoisse, de jalousie et de la torture incessante née d'une soif de l'inaccessible. Voilà, donc là, on a un portrait de femme qui est dévorée par ce désir et puis qui, effectivement, ne peut pas le réaliser et, d'une certaine manière, fait tout dans son existence pour ne pas le réaliser. Sans se concentrer sur ces aspects-là de la psychanalyse de l'infertilité, on peut dire plus généralement que le désir d'enfant, qu'il se formule ou pas, qu'il s'éprouve explicitement ou pas, est marqué par des dimensions inconscientes. Et là encore, effectivement, c'est à la clinique psychanalytique qu'il revient de l'avoir bien montré et d'avoir mis le doigt sur l'idée d'un enfant imaginaire. Quand on désire un enfant, on désire quelqu'un qui incarne un certain nombre de représentations fantasmatiques avec des composantes inconscientes liées à son histoire personnelle, son histoire familiale, son histoire de couple et ce que l'on imagine être sa future famille. Donc, le désir d'enfant que l'on énonce aujourd'hui, que l'on met sur la scène publique, c'est un désir qui véhicule un certain nombre de représentations inconscientes et c'est un aspect important quand on veut en analyser la place dans la société. Les arguments juridiques, éthiques et politiques qui peuvent conduire au fait de favoriser ce désir de procréation. Pour compliquer encore, me semble-t-il, mais c'est nécessaire, la chose, il faut aussi souligner qu'on peut désirer un enfant et dire le désirer dans plusieurs circonstances. Encore aujourd'hui, une femme peut, je cite l'expression commune, « tomber enceinte » sans vraiment l'avoir cherché, et reconnaître a posteriori la positivité de cet événement. Elle ne l'a pas vraiment voulu, elle ne l'a pas vraiment anticipé, mais par la suite, le désir peut devenir assumé. Le géniteur, l'homme, peut également faire ce parcours. On peut aussi consentir, sur un mode un peu mineur, au désir d'enfant de sa compagne ou de son compagnon, et s'inscrire dans le sillage d'un désir beaucoup plus affirmé, donc celui du compagnon ou de la compagne, qui va donner impulsion, et puis soi-même en venir à assumer ce désir. On peut aussi dire, et cela s'est marqué dans un certain nombre d'études sur les causes de l'avortement volontaire, désirer un enfant, vouloir un enfant, mais considérer qu'un avortement est inévitable, pour des raisons qui incombent à l'histoire personnelle de la femme, quelle que soit par ailleurs la force de ce désir. Il y a un certain nombre de travaux sociologiques qui sont révélateurs de ce point de vue, à la fois ceux de Simone Bateman et puis plus récemment de Luc Boltanski, qui ont mis en évidence les témoignages de ces femmes qui avortent, tout en disant qu'elles auraient voulu avoir cet enfant et qu'elles avortent pour d'autres raisons. Donc tout de suite, ce désir d'enfant qui apparaît comme une sorte d'évidence, qui est avancé comme tel, son image, sa conception doit être complexifiée et on doit bien voir tout ce qu'il porte en lui d'inconscient et aussi la variabilité des moments dans lesquels on l'énonce. Encore une fois, il est tellement posé comme une évidence et avec une telle force qu'aujourd'hui, on en vient à entendre un discours où, à l'inverse, un certain nombre de femmes, notamment, ont à se justifier de ne pas désirer d'enfants. Et ça, c'est présent à la fois dans la presse féminine, mais c'est aussi présent dans la littérature psychologique. Je citerai par exemple la psychanalyste Flistrev, qui a écrit un ouvrage « Elles veulent un enfant », mais qui s'est aussi intéressée à des parcours de femmes qui n'en ont pas voulu et qui font face à une forme de, enfin, ce qu'elles estiment être une forme de culpabilisation sociale qui les renvoie à l'idée d'un parcours inaccompli, qu'elles soient stériles ou non. Et ces femmes-là en viennent effectivement à, elles, de leur côté, élaborer des discours montrant qu'il est possible de se construire en tant que femme autrement qu'en devenant mère, et ce, de façon heureuse. Alors, lorsqu'on s'interroge sur les raisons de l'émergence de ce désir d'enfant comme énoncé public, hein, on peut mettre en avant plusieurs éléments d'explication. J'ai souligné l'espèce de mouvement historique qui avait pu conduire de l'affirmation d'un certain droit de maîtrise de son propre corps dans les années 70 à un discours centré sur le désir de procréation en lien avec la fivette, mais il y a d'autres éléments qu'on peut essayer de pointer. Et notamment, très important dans le contexte français, c'est le dispositif médical et technologique, institutionnel et juridique de l'assistance médicale à la procréation. Et c'est un dispositif qui est souvent indiqué comme rendant compte de l'émergence de ce discours sur le désir d'enfant, à la fois dans le débat public collectif et dans la littérature médicale ou bioéthique. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce dispositif donne lieu environ à 2,5% des naissances en France. Les chiffres varient selon les sources, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'importance des débats suscités par ce dispositif ne tient pas vraiment à l'importance statistique qu'il a dans le renouvellement des générations. Il me semble que si on doit mettre en avant ce dispositif de l'assistance médicale à la procréation, c'est plutôt parce qu'il dérange, je dirais, notre manière habituelle de concevoir la procréation, et il donne lieu, depuis un certain nombre d'années, à des configurations sociales et techniques inédites. Alors la France a décidé d'encadrer, selon sa tradition juridique, hein, ce dispositif. Elle en a fait l'objet d'une législation, donc vous savez qu'elle est actuellement en cours de révision. Je n'ai pas regardé les informations hier, mais je sais que la loi a été discutée en séance publique au Sénat. Donc je ne sais pas s'ils ont, dans quel sens ils sont allés pour cette partie qui concerne l'assistance médicale à la procréation. Donc, simplement, je veux vous relire le Code de santé publique pour ce qu'il en est à l'heure actuelle. Hein. L'assistance médicale à la procréation, selon ce code, elle s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. La stimulation ovarienne fait l'objet d'un point spécifique parce qu'elle est soumise à des recommandations de bonnes pratiques. Alors, toujours dans le cadre de la loi, il est posé que l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Donc, jusqu'à ce jour, il s'agit d'un couple marié et pouvant prouver 2 ans de vie commune. Et je crois qu'un des points de modification potentielle était d'étendre l'accès à des couples en concubinage ou paxés, et dès le jour du pax. Elle a pour objet, ça c'est un point essentiel, de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Et dernier point important, l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel la loi est susceptible d'être modifiée, puisqu'il y aurait une possibilité de transfert d'embryon post-mortem si l'homme a donné son consentement qu'après son éventuel décès, on pourrait transférer les embryons. Donc dans l'état actuel des choses, l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Alors, c'est un dispositif qui donc encadre les choses. Hein. On a un dispositif régulé par le droit. Il peut inciter, d'une certaine manière, les couples ou les individus à évoquer leur désir d'enfant. Puisque une fois qu'on s'engage dans une procédure de procréation médicalement assistée, on va aller à la rencontre de toute une équipe médicale et raconter son désir d'enfant pour, d'une certaine manière, donc obtenir l'agrément, susciter l'empathie de cette équipe médicale qui, elle aussi, va s'embarquer dans une aventure dont le résultat n'est pas certain. Ce dispositif peut aussi inciter à porter sur la place publique son désir d'enfant sur un tout autre mode, celui de la protestation. Puisque, effectivement, la loi, telle qu'elle est, même telle qu'elle est susceptible d'évoluer, fait grincer un certain nombre de dents, notamment, évidemment, du côté de ceux à qui l'assistance médicale à la procréation est refusée. Dans le cas français, aux personnes seules, aux couples homosexuels, et donc encore aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, aux personnes dont le conjoint est décédé. Sur le mode de la protestation, lorsque cet accès n'est pas légalement impossible, mais fait l'objet d'une controverse dont il est parfois difficile, à mon sens, de démêler le fil médical du fil moral. Par exemple, dans le cas de personnes qui souhaitent procréer lorsqu'elles sont atteintes d'une maladie incurable et qu'elles risquent de mourir rapidement, voire qu'elles sont en fin de vie, de personnes atteintes de maladies transmissibles à leur descendance, les médecins considèrent pour certaines pathologies ce désir d'enfant de façon comme quelque chose de discutable, voire de personnes considérées comme trop âgées, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour procréer. Donc, dans un cas comme dans l'autre, récit de soi ou protestation à l'égard des limites de la loi et des réticences des médecins, ce dispositif peut inciter à énoncer le désir d'enfant. Je dirais enfin que d'autres éléments que cette assistance médicale à la procréation, ce dispositif social et juridique et médical, ont contribué à ce qu'on passe d'une sphère intime, secrète, à une sphère discursive et publique. Pour sortir du cas de la procréation stricto sensu, il faut bien voir, quand on s'intéresse à l'évolution du droit, les juristes ont noté, et notamment quelqu'un qui s'appelle Yann Thomas, la montée du désir d'un des individus comme motif justifiant une réforme de la loi. Et ça, c'est propre à la période contemporaine. Hein. À partir du moment où un désir énonce un individu, il peut être considéré comme un motif justifiant légitimement une réforme du droit, même si ce n'est pas ce désir lui-même qui sera traduit dans le droit. Par exemple, vous savez que la transsexualité a été autorisée au nom d'un droit à la vie privée. Donc il n'y a pas, comment dire, transfert direct du désir au texte de loi, mais il y a bien eu ce désir qui a été considéré comme un motif légitime pour réformer la loi. Alors voilà, on se retrouve avec ce désir à la fois mystérieux et prégnant. Qu'en faire et comment faire ? Alors il me semble que le contexte contemporain présente plusieurs particularités assez intrigantes pour un philosophe, mais pas que pour les philosophes. Notamment, donc, je le disais au début, sur le sens du désir d'enfant. Quand on désire un enfant, qu'est-ce qu'on désire ? Et là, il faut tout de suite ouvrir le champ des possibles, sans trop vouloir d'entrée de jeu normer les choses. Est-ce qu'on désire transmettre son patrimoine génétique à quelqu'un ? Est-ce qu'on désire faire naître quelqu'un dont on pourra prendre soin ? Est-ce un désir orienté, pour la femme, hein, vers le fait de porter l'enfant pendant le temps de la gestation, d'accoucher, ou plutôt de l'aimer, de l'éduquer, de lui transmettre à ce à quoi l'on tient, une vision du monde, des valeurs, etc. Est-ce le fait, pour la femme comme pour l'homme, de fonder une famille, de perpétuer une lignée ? Toutes ces motivations, elles existent, elles ont été maintes fois explicitées et elles alimentent la réflexion sur le désir d'enfant et la réflexion notamment dans l'ordre moral lorsqu'il s'agit d'établir des frontières ou des limites, parce que on essaye toujours de trouver un sens concret, précis et arrêté du désir d'enfant afin de pouvoir établir justement facilement ses frontières et ses désirs. Il me semble important, en tout cas à ce jour, de maintenir une interrogation ouverte sur la notion de désir d'enfant et d'affirmer qu'on n'a pas de réponse univoque à donner à la question de qu'est-ce qu'on vise à travers le désir d'enfant. Il se diffracte, pardon, en ses diverses dimensions, et peut-être que ces diverses dimensions sont à conserver dans toute leur diversité, enfin dans toute leur voilà, pluralité, et qu'elles ne sont pas, enfin qu'il ne s'agit pas de séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais. Au-delà de cet aspect, ce qui enfin, peut guider, je dirais, la réflexion, c'est le fait qu'aujourd'hui, le questionnement sur le désir d'enfant, celui que je viens très rapidement d'illustrer, est souvent associé à un questionnement moral, juridique et politique. Alors, qu'est-ce que j'entends par moral, juridique et politique ? Bon, bah, juridique, effectivement, ça renvoie à l'idée que dans une société, le droit devrait venir sanctionner une pratique, devrait donc la réguler, l'interdire, l'autoriser, jusqu'à quel point, etc. Politique, effectivement, au sens où c'est quelque chose qui concerne la collectivité, quelque chose dont la cité s'empare comme objet de débat et comme voilà, objet de décision gouvernementale. Et morale, j'entends pas seulement ici des choix personnels, individuels, mais quelque chose qui relèverait aussi d'une sorte de morale sociale. Hein, là, on a affaire effectivement à des enjeux collectifs et la collectivité, elle exprime des normes, des préférences morales et c'est non pas à ce moment-là l'individu qui est au centre de la réflexion morale, mais toute la collectivité. Alors, dans tous les cas, ce qui est frappant aujourd'hui dans le débat actuel, c'est que la plupart des personnes qui s'y engagent cherchent à poser des limites au désir d'enfant. Non pas au discours hein, sur le désir d'enfant, on en parle si on veut, mais il s'agit de poser des bornes à certains désirs qu'on considère comme illégitimes et pas seulement du point de vue de l'autorisation de l'accès à l'assistance médicale à la procréation et de son financement au nom de la solidarité sociale. C'est une recherche, une quête de limites qui dépasse bien, qui va bien au-delà de la question de la solidarité sociale et de l'engagement financier d'une société. Alors je voudrais illustrer cette quête de limites en évoquant le débat qui oppose d'une part un philosophe qui s'appelle Ruven Augien et d'autre part une philosophe qui s'appelle Monique Cantos-Perber. Monique Cantos-Perber a coécrit avec René Friedman, donc le père entre guillemets, le père médical d'Amandine, un ouvrage intitulé Naissance et liberté. Alors, je vais partir d'eux parce que c'est un ouvrage qui a été publié en 2008, donc un ouvrage à quatre mains. Et dans cet ouvrage, ils examinent conjointement, donc une philosophe, un médecin, ce qu'ils appellent la question lancinante de savoir comment et jusqu'où il est possible pour les médecins, la loi, la société, de satisfaire un tel désir. Alors, si la question est lancinante à leurs yeux, c'est qu'elle renvoie, disent-ils, à une croyance que les individus maîtrisent la procréation. On serait dans une société où tout le monde croit maîtriser la procréation. Et à partir de là, l'urgence, à la fois médicale, sociale et juridique, c'est de poser des limites. Parce qu'on fait face à une sorte d'illusion de liberté. Ces limites, elles vont être de deux ordres. D'une part, certains désirs sont en porte-à-faux vis-à-vis de raisons médicales, et d'autre part, certains désirs vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant à naître. Et face à ces désirs, donc soit qu'ils soient en porte-à-faux par rapport à des raisons médicales, soit parce qu'ils battent, enfin voilà, ils vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant à naître, face à ces désirs, Friedman et Cantos-Perber affirment que les médecins ont une responsabilité et qu'ils se doivent de poser des limites. Donc ils refusent, d'ailleurs ils emploient l'expression, ils refusent le laisser-faire en matière de procréation. Et ils vont développer un certain nombre donc, de considérations autour de ces deux idées, raison médicale et intérêt de l'enfant à naître. C'est des notions effectivement qui sont vraiment d'une importance majeure dans le débat Enfin, j'espère que dans la discussion, on pourra en reparler, parce que c'est dans la perspective de réouvrir le questionnement sur ce type d'argument, raison médicale, intérêt de l'enfant à naître, que je présente cet exposé. Alors, à l'inverse de cette intention qui consiste à poser des limites, le philosophe ruvenogien, lui, défend l'idée d'une liberté procréatrice, c'est comme ça qu'il l'appelle, pleine et entière. Alors, son propos s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus générale, et pas seulement dédiée à la procréation, beaucoup plus générale sur l'intervention de l'État sur les choix des individus en matière de santé, de vie et de mort. Et ruvenogien donc, est connu pour défendre une position libérale au sens moral du terme, c'est-à-dire que tout citoyen doit avoir le droit de faire ce qu'il veut, pour autant qu'il ne nuise pas à autrui. Et à partir de ce moment-là, on ne doit pas, c'est la position qu'il défend, poser de limites à son désir. En particulier, ruvenogien s'inscrit en faux contre la loi actuelle française qui interdit la gestation pour autrui et qui n'accorde pas l'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels, aux célibataires et aux personnes qui ne sont plus en âge de procréer. Il estime que toutes ces exclusions doivent être discutées, même lorsqu'elles posent d'âpres problèmes aux médecins. Et en particulier, il pointe aussi le fait que finalement c'est aux médecins que revient la tâche de prendre un certain nombre de décisions, parce que le critère de l'âge n'est pas précisé dans la loi pour l'homme. Je crois que c'est 42 ans, c'est la loi ou c'est la bonne pratique d'ailleurs ? Excusez-moi. Oui, c'est ça. Non, pas pour la femme non plus. Toutes ces espèces de frontières qui sont établies, pour lui, elles sont discutables et elles oscillent d'une équipe à l'autre. Elles sont posées dans un équilibre fragile entre une réalité biologique et une sorte d'âge social qui conviendrait pour être mère ou grand-mère, être père ou grand-père. Donc, ruvenogien, en fait, il stigmatise une sorte de faux libéralisme de nos sociétés et le manque de liberté en matière de procréation que l'on a. Et il défend cette idée d'une liberté de procréer. Alors, par rapport à cette polémique, hein, et j'ai volontairement pris deux argumentaires contraires, l'un qui défend de façon maximale la liberté de procréer et l'autre qui défend de façon forte la nécessité de poser des limites et la nécessité qui s'appuie à la fois sur un argumentaire médical et puis sur un argumentaire moral, il est important de pouvoir se situer. Alors, j'avancerai pas beaucoup de thèses, en tout cas pas les thèses nécessairement qui me tiennent à cœur de façon très détaillée, parce que je voudrais surtout donc pouvoir discuter avec vous, mais je voudrais poser un certain nombre de points. Dans le discours public, je vous ai dit, à la fois l'affirmation de ce désir d'enfant, et puis on a ce débat qui est arc-bouté sur des positions extrêmement fortes, extrêmement structurées aussi dans leur argumentation. Alors il me semble que quand on aborde la question du désir d'enfant, on se doit de se positionner par rapport à ce contexte de réflexion. Et se situer par rapport à ce contexte de réflexion, ça implique notamment, je pense, de clarifier le rapport entre faits et valeurs, hein, entre ce que l'on dit qu'est le désir d'enfant et ce que l'on dit qu'il devrait être, et alors, pour m'aider dans cette tâche, je suis revenue à la lecture d'un classique de la philosophie auquel je ne m'attendais pas d'ailleurs spécialement à revenir, mais qui s'est avéré extrêmement précieux pour moi. Et je vais essayer d'illustrer ce que je veux dire par la nécessité de bien clarifier pour soi-même les rapports que l'on veut poser entre une interrogation de type ontologique, qu'est-ce que le désir d'enfant, et puis une interrogation de type normatif, qu'est-ce qu'il devrait être, où est la limite entre le bon et le mauvais désir. Alors ce texte classique de la philosophie, il s'agit du Phèdre et du Banquet de Platon, il s'agit de deux dialogues de Platon. Et je vais vous expliquer pourquoi il m'a semblé utile d'y revenir. Platon parle un peu du désir d'enfant, mais en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça qui m'a intéressée. En fait, dans le Phèdre, Socrate va d'abord écouter Phèdre, lui rendre compte d'un discours sur le désir amoureux. Et puis, à son tour, il va en appeler aux muses pour qu'elles l'inspirent. Et une fois qu'il est plongé dans cet état inspiré, il va entreprendre sa propre enquête sur la nature de l'amour. Et dans un premier temps, il déclare que l'amour que vous porte un amant ne s'accompagne pas de bonnes intentions. Mais il s'apparente cet amour à une sorte de faim qui cherche à s'assouvir. On a dans un premier temps une présentation peu flatteuse du désir amoureux. Et c'est une présentation qui va s'approfondir dans une réflexion sur la folie et les différentes formes de folie. Alors de prime abord, on pourrait croire qu'en qualifiant le désir amoureux de folie, Socrate va se montrer assez critique à l'égard de ce désir amoureux, puisque finalement il s'agit d'une faim qu'on va assouvir et puis rien d'autre. Rien ne semble pouvoir sauver ce désir. Mais en fait, Socrate va affirmer tout le contraire, parce qu'il va affirmer que les biens les plus grands nous viennent de la folie, et qu'elle est même une sorte de don divin. Donc, à partir de là, son enquête va se poursuivre en disant qu'il faut discerner bonne et mauvaise folie. Il y a la bonne folie, le bon désir amoureux, et il y a la mauvaise folie, le mauvais désir amoureux. Ceux qui savent aimer sont ceux qui, en fait, à travers l'amour qu'ils portent à l'égard de leur amant, veulent contempler l'essence des choses. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de la lecture de Platon, mais enfin, bon, il y avait cette image très parlante dans le Phèdre que ceux qui sont aspirés par le bon amour vont monter au ciel portés dans un chariot et vont admirer l'essence des choses, tandis que ceux qui sont portés par le mauvais amour, ils sont intéressés par les corps, la vie charnelle. Voilà. Et donc, dans ce dialogue qui est repris pour les thèses essentielles dans le banquet, ce qu'il est important de voir, c'est que Platon, en fait, il va pas chercher. En fait, ce qu'il va faire simultanément, c'est à la fois donner une réponse à qu'est-ce que le désir amoureux et en même temps distinguer bon et mauvais désir amoureux. Et alors, à partir de là, moi, je me suis demandé si, effectivement, nous n'avions pas intérêt, nous, quand on s'intéresse au désir d'enfant et qu'on s'intéresse aussi au fait qu'il est repris par la politique et que, socialement, on essaye de poser des limites entre bon et mauvais désir et à établir des lois à l'avenant, est-ce qu'on n'avait pas plutôt intérêt à dissocier les deux, c'est-à-dire éventuellement mener une enquête sur ce qu'est le désir d'enfant, avec toute la part de mystère qu'il recèle, mais bien cerner la question morale. Est-ce qu'il y a, pour reprendre les termes de Platon, est-ce que le désir d'enfant est une forme de folie ? Est-ce qu'il correspond à une sorte de faim que les futurs parents cherchent à assouvir à travers l'avènement d'un enfant ? Est-ce qu'il y a, et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon ou un mauvais désir d'enfant ? Toutes ces questions n'ont rien d'évident. Il ne va pas du tout de soi qu'on doive chercher à tracer une frontière entre un bon désir d'enfant et un mauvais désir d'enfant. Et en tout cas, la définition que l'on peut en donner est extrêmement compliquée à énoncer. Alors du coup, par rapport à cette espèce de point de départ qui serait une forme de prudence quant à la volonté de trouver la définition du bon désir d'enfant par différence avec ce que serait un mauvais désir d'enfant, il faut avancer néanmoins et constater que les États se sont toujours intéressés à la procréation de leur population, à sa courbe démographique et aux formes de vie familiale présentes sur le territoire de cet État. Donc, à côté de cette prudence nécessaire, vis-à-vis d'une définition, en particulier une définition trop rapide, d'une distinction entre bon et mauvais désir, on est quand même, en quelque sorte, pris à partie par l'histoire des États qui se sont effectivement toujours intéressés à cet aspect et qui ont tenté de le réguler. Je citerai encore Platon, mais c'est un exemple parmi d'autres, qui, à la fois dans la République et les lois, a énormément thématisé au sein de la philosophie politique, mais il ne faisait que refléter un état des choses, ce souci. Dans la République, il y a l'idée que la cité doit, au besoin, à travers le mensonge, faire se marier des êtres qui vont procréer des bons citoyens distribués dans les différentes catégories de citoyens que Platon envisage, mais ceci au détriment des choix intimes et personnels. On procédera à une sélection des femmes et des hommes, on favorisera les unions entre ceux qui ont une nature semblable, on éduquera les enfants en commun, de façon séparée vis-à-vis de leurs parents, etc. Le lien filial individuel est reconnu, mais il n'est pas pris en compte. Et puis, dans les lois, on trouvera une variation de ce discours, mais enfin, en tout état de cause, il y a bien cette idée que l'État, pour survivre, pour aller de l'avant, pour affermir sa puissance, doit faire de la procréation une de ses priorités. Donc, de ce fait, la cité n'envisage jamais le désir de procréation seulement comme un désir privé et intime, mais toujours aussi comme un désir sur lequel elle a un certain droit. Et ceci, je dirais, même en démocratie, dans la mesure où elle va continuer à réguler, non pas cette fois-ci à travers la contrainte, mais par des mécanismes incitatifs, financiers ou des dispositifs législatifs qui autorisent, interdisent, limitent, etc., certaines formes de procréation et en vis-à-vis certaines formes de vie familiale. Alors, à partir de là, et pour ouvrir la discussion, je voudrais marquer trois aspects. Si l'État nourrit cet intérêt, on ne peut pas pour autant considérer comme allant de soi qu'il a pour rôle d'inscrire dans la loi ou d'imposer dans la pratique des limites à certains désirs d'enfant, et que cette position de limite, effectivement, doit faire l'objet d'une discussion publique, en tout cas entre le fait de reconnaître qu'un État s'intéresse à la procréation, à la courbe démographique de la population, au fait de poser des limites dans sa loi à certains désirs d'enfant, il y a là un saut qui ne peut s'effectuer sans médiation. Si l'on s'oriente effectivement vers l'option morale, politique et juridique qui consiste à poser des limites à certains désirs, hein, en fonction d'une discrimination entre des bons et des mauvais désirs, alors il importe, et c'est, je pense, en ce sens que le débat public pourrait se développer aujourd'hui en France, de préciser la nature du critère retenu. Parce que je pense que, effectivement, aujourd'hui, on discute beaucoup du désir d'enfant à l'échelle de la société, mais on est dans un flou relatif et parfois savamment entretenu sur la nature des critères retenus. Est-ce qu'il y a là un souci propre au devenir démographique de la société qu'on gouverne ? Est-ce qu'il y a là une préoccupation ? Est-ce qu'il faut voir dans cette volonté d'établir des limites une préoccupation de santé publique ? Est-ce qu'il faut y voir une certaine vision de l'intérêt de l'enfant à naître ? Et auquel cas, quel intérêt ? De quoi parle-t-on précisément ? Est-ce qu'il faut y voir encore une conception implicite ou explicite de ce qu'est le bon lien de filiation, la bonne forme de vie familiale, etc., etc. Donc, il y a toute une série de critères possibles qui, d'ailleurs, peuvent se combiner entre eux, qui conviendrait d'expliciter dans cette réflexion collective sur les limites éventuelles à poser au désir de procréation. À la fois, donc, pour estimer cette nécessité de poser des limites, et puis, si on souhaite en poser, lesquelles et au nom de quoi. Voilà, ça c'est la question difficile par excellence. Bon, sans tout de suite parler de la question de la gestation pour autrui de manière générale, on peut dire deux choses. Moi, je suis assez, enfin personnellement, parce que c'est difficile de ne pas prendre parti sur ce type de débat, je suis assez d'accord avec les juristes qui, comme Laurence Brunet, défendent l'idée que... il est quand même assez cruel de laisser les enfants nés par ce biais-là dans les limbes juridiques, dans le vide, dans le flou, et que sans avaliser nécessairement la procédure par une loi, en tout cas, faire en sorte de créer un statut pour ces enfants. Bon, ça c'est un premier point.
Oui, on ne peut pas les mettre à part.
Oui, non, pas pour un droit différentiel, hein, mais je veux dire, les rentrer au pot commun, je veux dire, ce sont des enfants...
Donc,
Voilà, ce sont des enfants qui sont nés, on ne va pas les laisser hors du droit commun. Alors, le deuxième point, il me semble que là, se joue effectivement quelque chose qui est aussi présent, qui est très lié à la tradition juridique française, qui est effectivement qu'on fonctionne plutôt par le haut, on va poser un dispositif régulateur, et puis quand les choses bougent, quand elles bougent par la jurisprudence, mais ça ne fonctionne quand même pas du tout comme les lois qui sont... les systèmes de loi comme la common law qui sont beaucoup plus fondés sur la jurisprudence. Donc je pense qu'il y avait un espoir de passer par la bande, entre guillemets, de la part de ses parents, c'est-à-dire sans renverser ou sans faire modifier l'état de la législation dans son ensemble, à faire en sorte qu'un jugement soit rendu pour ce cas spécifique. Mais on sait bien effectivement qu'une fois qu'il y a un jugement qui est rendu sur ce cas spécifique, il en entraîne d'autres et que la jurisprudence peut amener à terme à changer la loi. Donc je crois qu'il y a aussi un enjeu pour la communauté juridique et politique très fort là de pas céder le terrain sur un jugement qui pourrait conduire à renverser tout l'édifice. Bon, ça c'est pour la question du débat, je dirais, de nature juridique. Oui. Oui, alors tout à fait. Bah, cet automne, il y a aussi eu un couple de femmes homosexuelles qui ont obtenu, je ne sais plus, dans l'Est de la France, raison pour une...
La jurisprudence, ça marche pas toujours.
Ça marche pas toujours, la jurisprudence, mais je pense effectivement que... Enfin, j'ai discuté, en l'occurrence, il n'y a pas longtemps avec la présidente de la Cour de cassation, et effectivement, elle voyait... Enfin, il y a cet enjeu-là très fort de quel va être l'équilibre entre la loi et les jugements spécifiques qui sont rendus sur cette question. Après, bon, je trouve que l'histoire de la gestation pour autrui en France, elle est particulièrement compliquée parce qu'on est passé d'un vide juridique où un certain nombre d'enfants sont nés et où les pratiques étaient ni interdites ni autorisées à un moment où, je crois que c'est à la fin des... Quand est-ce que ça a été interdit la gestation ? Dans les années 80, oui, 80, oui, où tout à coup, elle a été interdite. Donc de toute façon, il y avait déjà des enfants qui étaient nés et la situation... qu'on voit aujourd'hui à travers ce cas-là, il n'est pas non plus nouveau et il y a d'autres enfants qui sont dans cette situation. Après, il y a un troisième niveau d'interrogation qui est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre la gestation pour autrui ? Bon, là encore, je m'exprime à titre très personnel, hein, mais l'an dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec le Collège de gynécologie d'Île-de-France sur cette question-là spécifiquement. Et croyant bien faire, j'avais fait une sorte de catalogue des idées reçues sur la question à la manière de Flaubert. Et en fait, voilà, on a eu un débat extrêmement houleux et violent parce que... bon, simplement ce que je voulais mettre en évidence, mais ce qui a été bien mis en évidence par l'Académie de médecine, il y a eu un certain nombre de travaux, la préparatoire, c'était les arguments sur lesquels s'appuyaient les partisans de la légalisation de la gestation pour autrui et ceux qui étaient contre. Donc il y a souvent au cœur de la discussion la question du lien de filiation. Il y a la question du bon modèle familial, il y a la question du lien in utero et de son impact sur le développement psychique de l'enfant, il y a la question de l'exploitation économique des femmes, de certaines catégories de femmes. Donc de toute façon, de part et d'autre, il y a des vrais arguments, ou en tout cas des vraies difficultés. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout facile de répondre par oui ou par non à cet état des choses. En revanche, comment dire, je suis assez... je trouve que l'argument, l'idée selon laquelle... Parce que ceux qui voudraient la légaliser disent souvent bah, « ça existe dans d'autres sociétés, ces sociétés ne sont pas des barbares, donc on peut le faire aussi ». Et de l'autre côté, on répond bah, « c'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'il faudrait le faire aussi ». Je trouve que c'est un peu court comme réponse, c'est-à-dire que ça ne nous pousse pas à nous interroger sur les sous-bassements de nos décisions juridiques. Qu'est-ce qu'on considère être le bon lien de filiation ? Est-ce qu'on dit que le lien in utero, c'est indispensable et définitivement indispensable à la bonne croissance de l'enfant ou pas, et quelle place on accorde à cette question de l'exploitation économique. Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, là, vous mettez le doigt sur ce qui m'avait complètement, je dirais pas fasciné, parce que c'est pas le bon terme, mais enfin arrêté quand j'avais travaillé sur les usages de l'idée de valeur de la vie en contexte hospitalier, et en particulier sur les décisions d'interruption d'une vie à naître. Et c'est ça qui m'avait frappé, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le désir peut tout à coup brutalement chuter ou au contraire persister dans son être contre l'opinion du médecin ou des équipes médicales. Alors, bon, effectivement, ce que ça m'a amené à développer comme idée dans la suite de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le fait que ce désir est essentiellement variable dans son intensité, à la fois pendant tout le temps de la grossesse et même après la naissance. Hein. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de travaux sur l'amour parental, le fait qu'on ne passe pas automatiquement du désir d'enfant pendant la grossesse à l'amour parental après, etc. Donc, il est essentiellement variable. C'est-à-dire que si fort soit-il énoncé, il peut tout à coup chuter et s'arrêter face à l'annonce d'un diagnostic. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui m'a aussi... Alors, du coup, j'ai suivi pendant 2 ans des consultations au conseil génétique. Alors, bon, pas, j'ai pas fait une enquête à la manière d'un sociologue, hein, mais enfin, j'en ai suivi un certain nombre. Donc, à partir de là, les petites conclusions que modestement j'essaye d'en tirer, c'est aussi qu'il n'y a pas de règle en la matière, c'est-à-dire qu'effectivement, ce désir d'enfant, il se maintient, il diminue, il augmente, il s'étiole, il meurt, beaucoup en fonction de l'histoire du couple et de l'histoire de la personne qui est confrontée à l'annonce, plus que face à la gravité médicalement estimée de la pathologie identifiée ou comme certitude ou risque, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, par exemple, de manière, effectivement, moi j'ai été de surprise en surprise de ce point de vue, c'est-à-dire que on voyait arriver des femmes enceintes qui avaient plusieurs cas de retard mental à des stades très avancés de la grossesse, ça n'avait pas du tout l'air de les affoler, et au contraire, d'autres couples venir consulter avant même d'attendre un enfant parce qu'il y avait eu telle pathologie dans la famille qui voulait surtout pas qu'elle se reproduise, etc. Alors voilà, il y a des histoires familiales et des histoires de couple qui impriment quand même très fortement, je pense, leur marque sur l'évolution du désir d'enfant face à l'annonce d'une pathologie. Et puis, effectivement, j'ai vu tous les cas de figure, c'est-à-dire des équipes médicales être abasourdies par le maintien d'un désir alors qu'elles trouvaient que ça n'avait pas sens de poursuivre la grossesse, ou à l'inverse, ces équipes médicales voulant faire comprendre aux personnes qu'elles avaient en face d'elles que si, ça valait le coup de continuer la grossesse et qu'il ne fallait pas demander une interruption médicale de grossesse. Et donc, parmi les choses les plus intéressantes que j'ai pu lire sur ce sujet, je me souviens notamment d'un écrit d'une dame qui s'appelle Véronique Mirles, mais je crois qu'elle est obstétricienne d'ailleurs aussi, elle, qui explique qu'elle travaille... essentiellement, quand elle est confrontée à ce type de situation, ce qu'elle expliquait, elle essayait dans le temps de la grossesse, qui est évidemment un temps limité, et surtout si on vient en cours déjà de grossesse, à réouvrir l'espace des représentations avec les parents, c'est-à-dire à surtout faire un travail qui leur permet de voir, au-delà de la sidération impliquée par l'annonce, de voir s'ils sont à même d'accueillir un enfant qui sera éventuellement malade ou caractérisé par une anomalie. Non, effectivement, c'est pour ça, effectivement, que... moi, je me suis quand même beaucoup appuyée dans mon travail sur des études de psychanalyse, parce que je trouve qu'elles, bon, d'une part, de façon générale, elles mettent bien en évidence un certain nombre de motivations plus ou moins conscientes qu'on a et qui donnent une certaine ambivalence au désir d'enfant et qui expliquent aussi qu'il peut avoir il peut à la fois se maintenir au-delà d'une grossesse avortée comme désir. Et en même temps, il s'est arrêté pour cet enfant-là ponctuellement parce que l'enfant à naître ne correspondait pas aux représentations que souhaitait, nourri par les futurs parents. Et il y a aussi des travaux, bon, toujours du côté psychanalytique, mais qui ont plus porté sur l'infertilité, qui mettent aussi en évidence des parcours assez intéressants de ce point de vue. Quand les équipes envoient les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, je sais qu'on n'a pas pu repérer de cause physiologique d'infertilité, se faire, entre guillemets, psychanalyser. Il y a un certain nombre d'éléments pour expliquer ça. Oui. Pour vous dire le fond, au jour d'aujourd'hui, hein, je pourrais changer peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que cette présentation essentiellement médiatique m'agace au plus haut point. Je trouve que c'est une façon extrêmement réductrice de présenter la naissance de ces enfants. Je ne crois pas trop au fait que des couples s'engagent dans un parcours de grossesse de façon purement instrumentale. Parce que, en fait, quand on parle d'enfants médicaments, on a tout de suite en arrière-plan l'idée que cet enfant-là n'est pas vraiment désiré, qu'on le met au monde juste pour soigner l'autre, donc c'est un objet, donc c'est un mauvais désir, et donc c'est mal. Et on retombe justement sur la question de la distinction entre bon et mauvais désir. j'arrive pas à adhérer à cette façon de voir les choses. Quand on porte un enfant 9 mois, qu'on sait qu'on va l'élever après, on ne peut pas simplement en avoir une vision instrumentale. Voilà. Donc pour moi, c'est une présentation qui nourrit beaucoup la presse à scandale, mais qui n'a pas vraiment de fond du point de vue éthique et politique.